Alors, on va passer à la période de questions. Hein, avec nos, sur, au sujet de nos intervenants de cet après-midi, qui nous ont parlé de façon très diverse, mais finalement, probablement qu'on peut faire des liens entre toutes ces interventions, soit du surréalisme et de son évolution dans la poésie française, le rapport singulier de la passion reliant la culture surréaliste et la culture gay comme étant une osmose, un mouvement à l'intérieur de cette énergie, aussi le rapport entre un rapport d'opposition qui a peut-être permis, peut-être, si j'ai bien compris, l'intervention de Gilles Lapointe, un geste fondateur dans le refus de 47. Il y a quelque chose là que je trouve intéressant, que j'avais jamais lu. Donc, je laisse la parole ou à un intervenant sur un autre intervenant ou venant de la salle. Est-ce qu'il y aura un intervenant voulant intervenir sur ce qu'on a entendu? Alors, Gilles.
Simplement une question par rapport au logogramme, parce que je pensais à certains poèmes, par exemple, que François Cheng nous a présentés de la poésie chinoise, où on voit, par exemple, un pommier en fleurs hein, qui prend la forme d'un poème. Les rapports avec la peinture et la poésie chinoise, chez d'autres mots, est-ce que c'était quelque chose de prégnant?
D'autres mots étaient intéressés par les langues et bien sûr par les signes chinois, mais aussi les langues lorsqu'il va en Irlande. Donc le graphisme différent, ça c'était un de ses matériaux et un de ses intérêts, ça c'est évident. Oui.
Peut-être par la mère, comme tu avais souligné que la mère était...
Non, sa femme. Hein. Sa femme avait un père chinois, mais qui a disparu dans la nature. Donc, c'est un peu au niveau mythique, ce père chinois. Hein. Oui, puis il a quitté sa femme quand même très vite pour Gloria.
Oui. Est-ce qu'il y aurait des interventions de la salle?
Moi, j'aurais... C'est vraiment pas une question. Enfin, je sais si c'est une question qui est indirectement dans le propos. J'aurais voulu savoir, je crois que c'est à Francis Combes que je vais poser la question. Perec, quid de Perec avec, je me souviens, le groupe Olipo. Est-ce qu'il est ressenti comme dans la mouvance ou comme héritier du surréalisme? Il y a une autre question, mais ça c'est une vraie question parce que c'est mon ignorance. Qu'est devenu Pichette?
Ah, il est mort. Pichette est, à mon avis, Perec, je dirais non, hein, mais bon,
moi aussi, je pense,
suis pas, oui. Je suis pas historien de la littérature. En tout cas, je pense qu'en effet, il fait plutôt partie de ceux que j'ai appelés, mais c'est une appellation qui m'est propre et je reconnais volontiers qu'elle est sans doute très simplificatrice, mais des fois, la simplicité s'impose quand tu prends un peu de recul. Pour moi, il fait partie des rhétoriqueurs de ceux qui ont été des expérimentateurs de l'écriture, du langage, qui ont produit d'ailleurs des œuvres parfois tout à fait passionnantes et qui disent des choses du monde quand même, parce que l'œuvre de Perec dit des choses du monde, évidemment.
Comment hein.
Mais c'est plutôt... du côté de la prose, l'une de ses œuvres qui marque, à mon avis, une rupture avec l'aventure surréaliste. Pichette, c'est pas du tout ça, c'est un jeune homme qui a traversé la poésie française d'abord de manière fulgurante et après qui s'est survécu d'une certaine façon, hein, qui a fini, il est mort il y a quelques années, dans une certaine solitude. Hein. Il avait écrit Les Épiphanies, qui est, à mon avis, l'un des plus beaux textes du surréalisme.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Un texte d'une jeunesse, d'une violence, d'une sorte de santé. C'est un geyser permanent d'images, d'une fulgurance. Ça avait été porté à la scène par Gérard Philippe. Et c'est une sorte de grand poème sur la guerre, de dénonciation de la guerre. Mais ça vient après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est donc comme une sorte de... que de la comète du surréalisme.
Ébloui.
Et puis, il est connu aussi pour d'autres textes, la lettre orange, la lettre rouge. On a publié récemment plusieurs de ses textes, dont de ses tout derniers textes, qui s'appelle Les Ditelis du Rouge-Gorge. Parce qu'il a passé plusieurs années de sa vie dans une quête un peu curieuse, courant après les rouges-gorges, qui évidemment sont des oiseaux un peu mythiques, en même temps très familiers, et il voulait faire une sorte de grand livre du rouge-gorge. Il a sillonné la France pour repérer des rouges-gorges, les photographier. Il en a tiré, après, je ne sais pas, peut-être 15 ans de travail, un livre qui doit faire 40 pages sur le rouge-gorge, fait de petits poèmes honnêtement très gentillés et très faibles, hein, qui semblent à des années-lumière de, des épiphanies. Oui, hein, mais en même temps... bon, c'est une chose qui, moi, m'a touché énormément quand j'ai lu ça. Pour moi, il est une figure de ce que le surréalisme a produit de plus beau et de plus fort dans la poésie française. Vraiment. Hein, oui. Vraiment. Il y aurait d'autres poètes dont on peut toujours trouver des filiations. Et des, il y a un très grand poète français, par exemple, qui s'appelle Paul Kéineg. Il n'est pas surréaliste. Mais évidemment, son écriture n'aurait pas été possible sans surréalisme. Il y a quand même... comme ça, des queues de la comète qui sont oui. parfois très étincelantes. Hein, parfois très étincelantes. Mais c'est une comète isolée. Voilà. Et il a terminé sa vie en professant des opinions proches du Front National, racistes, dans une sorte de, d'amertume. Bon, voilà. Et d'isolement. Non, 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 pas du tout. Kéineg, il est bien vivant, fort heureusement. Non, pas du tout. Non, je parlais de Pichette. Hein. Voilà. Excusez-moi.
Juste dire, par rapport à Claude Gauvreau, ici, on sait que Pichette a eu une influence directe sur lui. Ah, autant oui. il a caché l'influence d'Artaud, autant Pichette, il l'a reconnu très rapidement.
Ah, c'est un poète que je relis régulièrement.
Ouais. Ah, moi aussi.
Il y a eu des liens avec le Québec, Pichette, avec des poèmes, entre autres, sur la neige, des grands poèmes sur la neige. J'ai vu un livre d'artiste récemment avec un poème de lui des années 40. Et, Yolande, une question?
Commentaire sur l'ensemble des interventions de cet après-midi qu'une question. Je reviens à notre manifeste automatiste Le Refus Global en 48 dans la région de Montréal, donc à l'ombre du Mont-Saint-Hilaire, et ce sauvage besoin de libération que les 16 signataires avaient explicité dans ce manifeste. Et je retrouve ce besoin de liberté chez tous les auteurs dont vous avez parlé aujourd'hui, chez tous les poètes et dans tous les mouvements dont vous avez parlé. Je pense à quand, Francis, vous avez parlé avec précision des héritages du surréalisme dans la poésie française et quand vous mentionnez que maintenant, chez les jeunes poètes, ce serait l'intérêt pour le slam et le rap qui serait peut-être l'héritage, peut-être vous vous posiez la question, le plus évident du surréalisme, mais c'est sûr qu'on va trouver dans ces formes qui, ici aussi, à Montréal, ont de plus en plus d'importance, un intérêt pour une sorte de liberté au niveau de la langue, au niveau du langage, et qui serait peut-être directement ici. Du surréalisme. Gilles Lapointe, vous avez parlé du désir d'enracinement de Bourdieu, qui est, avec les exemples que vous avez donnés, là, les lettres que vous avez citées, si j'ai bien compris, juste avant son exil. Et c'est ça?
Non, c'est-à-dire que l'exil se produit en 1953, mais il est forcé en 1948, hein, il est mis à la
porte avec, du oui.
Donc, c'est juste un an et demi. Mais ce qui est très important de cet enracinement, c'est qu'il décide d'atteindre un ordre international à partir du Québec. Et c'est ça qui est important, cet enracinement, pour rejoindre l'international, plutôt que de partir alors qu'il en avait le projet en 1946. On sait qu'en 1946, il a donné à Riopel un certain nombre d'œuvres du groupe. Il demandait à Riopel d'aller rencontrer le grand Pierre Loeb, la Galerie Pierre à Paris, parce qu'il savait que Pierre Loeb était intéressé par... Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Pierre Loeb n'a gardé que Riopel. Et quand Bourdieu a vu ça, il a senti qu'il y avait double jeu de la part de Riopel. Et il a donc refusé l'invitation de Pierre Loeb qui venait par... de Loeb qui venait par Riopel. Donc, tout ça est un jeu très complexe, mais ça conduit Bourdieu donc à s'enraciner et à écrire Refus global. C'est ce qui fait que Refus global est possible. Sinon, si Pierre Loeb avait accepté les œuvres du groupe, Bourdieu quittait le Québec, alors qu'il venait de finir de construire sa maison à Saint-Hilaire, mais il sentait que l'art qui était fait ici était vraiment en avance par rapport à ce qui se faisait à Paris, notamment, et il aurait pu s'imposer, effectivement, sur la scène européenne, en tout cas.
C'est vous qui disiez que son refus de se jeter dans les bras du premier Français venu, fut-il pape ou surréaliste, c'est intéressant, ça montre aussi ce désir très grand de liberté qui, je pense, est peut-être, malgré toutes les... on a vu tellement de facettes du surréalisme, tellement d'aspects. Je pense à la communication fort intéressante de Peter Dubé aussi, où c'est la dimension de la liberté du désir hein, qui a été mise en évidence.
J'aimerais, oui? J'aimerais juste aussi répondre à votre commentaire quand vous parlez des poètes de slam oui? et de ce qu'on dit spoken word.
Oui,
et,
oui.
La possibilité d'un genre d'héritage de surréalisme là-dedans, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes, si la salle est au courant de la poète Albertin. Sherry D. Wilson, qui est un des grands, grands poètes canadiens du slam et du spoken word, qui se dit, qui s'avoue très ouvertement dans la lignée du surréalisme, et puis qui fait des poèmes de vidéo, beaucoup de performances avec des livres aussi, mais c'est un exemple qui vient tout de suite à l'esprit, où c'est très, très clair, cet héritage.
Et en même temps, je pense que c'est Francis qui mentionnait qu'il y a aussi un retour à la rime ou à des choses qui ne sont pas du tout l'éclatement de la forme. Alors, il y a à la fois, il y a des paradoxes dans tout ça. Et puis aussi, finalement, cette belle description du travail, particulièrement des logogrammes, des logoneiges, des logoglaces de Doutremont et ce personnage rimbaldien qui revendique la liberté en s'opposant. D'abord, vous avez expliqué au début le rapport à sa famille, un refus des valeurs familiales de droite. Et son destin m'a fait penser à celui un peu de notre poète Émile Nelligan qui a fini ses jours à l'asile et lui, dans une maison donc, de retraite, a dessiné ses logogrammes. Et un désir de liberté qui, parfois, paradoxalement, encore là, va conduire à des enfermements de cet ordre-là qui peuvent être privés ou même d'un autre ordre. Alors voilà, je pense que cette dimension de la liberté réunit probablement toutes les réflexions qu'on a entendues sur le surréalisme. Puis en même temps, il y a aussi un décalage entre, je pense que c'est particulièrement dans l'intervention de Peter Dubé, où on voyait le décalage qu'il peut y avoir entre la lecture passionnelle qu'on peut faire des textes surréalistes, de L'amour fou, par exemple, qui est extraordinaire, quand on a 20 ans, qu'on a l'âge de la révolte, et ensuite, quand on découvre les dictats péremptoires de Breton, et là, on voit des contradictions. Je pense qu'on n'aura pas résolu aucune de ces contradictions aujourd'hui, mais j'ai pour ma part trouvé ça bien intéressant de vous entendre. Alors, merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, à travers tous ces éclats du sauvage besoin de libération, y aurait-il une intervention? Oui, Jean-Yves? Oui, une remarque. Oui, voilà. Parce que c'est enregistré.
Je voudrais juste faire une remarque par rapport à l'ensemble des choses qui ont pu être dites aujourd'hui. Je constate que, en définitive, un mouvement, un courant, un état d'esprit n'inscrit pas seulement qu'une continuité, et il s'inscrit dans une discontinuité, et donc il est dans un mouvement de rupture. Et je pense qu'il serait important, si on voulait prolonger la discussion sur ces questions-là, si nous avions le temps, je voudrais de poser également de quelle manière les poètes qui émergent dans les années, fin des années 40, début des années 50, en Europe, en France, en Belgique, mais également au Québec, et là c'est intéressant de voir de quelle manière s'est posé tout le mouvement automatiste et les écrivains de ce mouvement, de voir de quelle manière se sont posés des poètes comme, je pense, à Dubouchet. Je pense à Dupin, je pense à Tortel, et là on pourra en nommer plusieurs, de quelle manière ils se sont posés en opposition, d'une certaine manière, par rapport au surréalisme, mais qui ne serait pas nécessairement possible, ou du moins certaines choses dans leurs œuvres ne seraient pas nécessairement possibles, si les expériences du surréalisme ne s'étaient pas imposées à leur conscience. Je pense les rapports entre Dubouchet et la peinture, extrêmement important quand on pense son rapport à Masson, Giacometti, etc. Donc, il y a là, je dirais, quelque chose de... Il faudrait jouer dans une espèce de dialectique pour voir dans quelle mesure le mouvement surréalisme se prolonge, éradie, comme j'avais dit dans ma communication, et en même temps, il pose, il oblige à des oppositions pour pouvoir reposer, et je pense entre autres, bien sûr, au nom que je viens de nommer, Dupin, Dubuchet et quelques autres, et se poser par rapport au réel. C'est de, d'une certaine manière, face à une destruction du langage, il tente de reconstruire un langage, il tente de reconstruire une langue poétique, et d'une certaine façon, de relancer tout le rapport au réel. Je pense que c'est extrêmement important de poser cette question-là dans cette espèce de dialectique. Voilà.
Non, mais c'est vrai que si on pense, pour poursuivre un peu dans l'intervention de Pierre-Yves, le dernier roman d'Aragon n'aurait pas été possible sans son passage par le surréalisme, puis le rejet du surréalisme qui va donner Blanche et l'oubli. Et à la fin, c'est clair que c'est un grand roman lyrique romanesque, mais traversé par l'expérience du surréalisme qui a pourtant été rejeté pendant X années au niveau formel, du moins. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière intervention. Il y a beaucoup de noms qui ont été cités, il y a beaucoup de noms qui n'ont pas été cités. On n'a pas parlé de Marinetti, on n'a pas parlé des futuristes, on n'a pas parlé au Québec du travail et pictural et poétique de Roland Giguère. Il reste beaucoup de voies à explorer à travers cette question du surréalisme qui, l'air de rien, est loin d'être fermée. Hein? Alors, on s'en aperçoit après 9 interventions, après on entr'ouvre cette question qui était peut-être un peu en dormi, du moins selon l'hypothèse de Francis Combes. En France, on se pose peu de questions dans le moment sur qu'est-ce qu'il y en est du surréalisme. Et, c'est pas, et pourtant, le débat, je suis certain, dans n'importe quel contexte, pourrait à nouveau réouvrir des angles qui n'avaient pas été imaginés possibles. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question avant que je clôture? Une dernière question? Alors, je vous rappelle que depuis ce matin, on a entendu lire des textes par Yolande Villemaire et Jean-Marc Desjans. On a entendu des conférences de Karim Larose, Philippe Peck, Rodney Saint-Éloi, Pierre-Yves Soucy, Maxime Catellier, suivi de lectures de textes par Carole David, Claude Effly, et de conférences par Francis Combes, Gilles Lapointe, Peter Dubé et Françoise Lalande. On a entendu beaucoup aussi votre silence et votre écoute, et cette écoute-là, elle nous a permis tous ensemble de pousser un peu plus loin la réflexion. Alors, je remercie tout le monde. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi.